7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle du phénomène de société MeToo. Un phénomène pas franchement mondial si on considère le silence de l'Afrique. Alors, est-ce que quelque chose est en train de changer dans la vie des femmes, dans les relations avec les hommes? Et si oui, quoi exactement? Bien au-delà de l'affaire Weinstein aux États-Unis, les agressions sexuelles sont désormais dénoncées, mais pas forcément sanctionnées. Cela va du viol comme arme de guerre aux violences conjugales en passant par le harcèlement. Beaucoup disent « rien ne change », mais en même temps, un voisin en RDC nous écrit sur Facebook « quoi qu'elle fasse, quoi qu'on fasse nous, elles ont toujours raison ». Preuve qu'il s'est bien passé quelque chose. À commencer par le débat sur le consentement sexuel. Sommes-nous entrer dans un irréductible conflit entre les hommes et les femmes? On va en parler avec nos invités dans le studio. Françoise Brier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ingrid Tervat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste franco-indienne à Courrier International. Eugénie Bastier, bonjour.
Bonjour.
Pour nos auditeurs à l'autre bout du monde, vous avez 26 ans, il faut le préciser quand même, c'est pas si fréquent. Vous êtes ultra-conservatrice, nouvelle machine. Non mais vous allez le contester, vous avez bien sûr le droit. Et vous êtes en tout cas la nouvelle machine à conviction de la droite française, qui en a bien besoin. Vous publiez cet automne « Le porc émissaire, terreur ou contre-révolution » aux éditions Fayard.
Alors si
le...
du cerf, pardon.
Aux éditions du Cerf. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous êtes une fidèle des éditions du Cerf. Alors, si le book se transforme en porc, ça mérite vos points de vue, les voisins et les voisines. Qu'est-ce qui change entre les hommes et les femmes? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp pour nous laisser des messages.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Je vous lis le message de Richard, auditeur en Allemagne. Aujourd'hui, chacun croit tout savoir, tout le monde donne des leçons à tout le monde. Les femmes sur comment il faudrait les considérer, les respecter, et les hommes sur comment les femmes devraient se prendre en main et s'assumer. Richard poursuit, il n'est donc pas surprenant qu'au milieu de toutes ces injonctions, on finisse par ne plus s'écouter et communiquer. On peut craindre une guerre des sexes. Il faudrait réapprendre à s'écouter mutuellement. L'égalité des sexes est une pièce à deux faces, et tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est de regarder une face sans prêter attention à l'autre. Voici également le message de Souleymane, 27 ans, étudiant en histoire à Koudougou, au Burkina Faso. Souleymane nous dit ceci, les relations ont été un peu modifiées après le hashtag MeToo. Moi, je suis pour l'égalité homme-femme, mais ici, quand on aborde le sujet de la cause des femmes avec mes amis, je ne suis pas suivie. Moi, à la maison, je prépare la nourriture pour la famille, je fais le marché. Mais il y a aussi une responsabilité des femmes qui ont tendance à catégoriser ce que doit faire un homme ou une femme et ce que ne peut pas faire une femme. Voilà, c'est le message de Souleymane. Et puis aussi un message posté sur WhatsApp d'Elisabeth Alomé au Togo.
Bonjour, je vous appelle du Togo. Le mouvement MeToo a partiellement libéré la parole parce que la plupart des victimes ont peur de se confier, de dire ce qui leur est arrivé, surtout quand il s'agit d'un membre de la famille, parce que c'est des choses qui arrivent souvent dans les familles. Moi, il m'est arrivé quelque chose de similaire, mais heureusement que la personne n'est pas parvenue à ses fins. Et finalement, on a peur de créer des conflits dans la famille. Et donc le coupable n'est pas inquiété, mais c'est la victime qui vit dans la peur et quand même doit faire semblant face à cet agresseur, doit faire semblant de sourire, d'être contente de voir la personne pour ne pas créer des frustrations, pour ne pas que la famille se doute qu'il s'est passé quelque chose. Voilà.
Que vous inspirent ces commentaires, Françoise Brier ?
Je pense que...
Le tout dernier est un témoignage.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des freins, évidemment, que rencontrent les femmes pour parler. les pressions de la famille, tout ce qui est dans la sphère privée est extrêmement difficile pour les femmes à révéler, avec des conséquences très très nombreuses sur leur situation générale. Et donc c'est vrai que ça fait partie des grandes difficultés que l'on entend pour ces femmes victimes de violences. Alors là, a priori, plutôt des violences sexuelles, mais aussi des violences conjugales. Donc c'est vrai que, et on sait très bien que la majeure partie des violences se passe dans la sphère privée. Et pour nous, ça a été extrêmement important, en tous les cas, dans nos combats politiques, d'amener ces débats sur la sphère privée, que ça devienne politique et que ça puisse sortir effectivement de ce débat qui restait confiné dans les familles. Et je pense qu'il ne faut pas que les femmes hésitent à parler, en tous les cas, et à révéler ces violences avec les institutions ou les associations qui peuvent exister partout, que ce soit en France, mais aussi ailleurs dans le monde.
Un débat, effectivement, d'Alcôve qui est devenu un débat politique, Ingrid Tervat.
Oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Françoise Brier, sur le témoignage de cette dernière auditrice. Et pour parler des deux premiers auditeurs qui ont appelé, qui sont des hommes, je trouve ça intéressant qu'ils s'emparent de ce sujet, qu'ils y réfléchissent. Et en même temps, je souris un petit peu quand ils disent « il faudrait nous écouter aussi, ça doit être dans les deux sens ». Ouais, ils ont raison, il faut qu'il y ait un dialogue entre les femmes et les hommes, mais enfin pour l'instant il y a eu surtout un monologue des hommes pendant des centaines et des centaines d'années, et ce qui est très intéressant, notamment avec le mouvement MeToo, c'est qu'on entend des voix de femmes qu'on n'entendait pas avant, pour beaucoup de raisons, et que ça ouvre une discussion comme celle qu'on a aujourd'hui, et comme celle qu'ils ont peut-être eux, chez eux aussi, en famille.
Eugénie Bastier.
Oui, et moi je crois que, évidemment, on ne peut être que pour la libération de la parole et qu'il est bon que là où le silence régnait, évidemment, que soient révélées certaines turpitudes au grand jour. Et même si je pense que ça restera toujours difficile de parler de son intimité, de parler des violences sexuelles, et qu'il ne faut pas non plus avoir un discours utopique sur ces questions, comme si c'était facile d'en parler, comme si c'était facile de dénoncer quelqu'un dont on était proche, que ce soit un père, un conjoint, parce qu'il y a des interdépendances. Dépendance, il y a des questions de liens qui ne sont pas faciles et ce sera toujours difficile d'en parler. Donc je suis contre cette espèce d'utopie de la transparence absolue comme si ça allait être facile. Ce sera toujours difficile et c'est bien d'accompagner ces femmes. Mais je crois que la question que pose MeToo, c'est en effet, il y a eu ce phénomène de libération de la parole qui a révélé finalement un... En France, en tout cas, hein, je parle tout, pas pour...
Qui a donné beaucoup la parole
aux
femmes,
voilà,
quand même.
Qui a donné la parole aux femmes, mais la question, c'est ça a montré que le système judiciaire était cassé, dans le sens où il ne permettait pas de prendre de traiter efficacement les plaintes, notamment des femmes. Et la question, c'est est-ce que, parce que ce système judiciaire ne fonctionne pas, puisqu'il y a très peu de plaintes qui aboutissent à des condamnations, est-ce qu'il faut se passer de ce système judiciaire et rendre la justice ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux, de manière médiatique, se passer finalement des tribunaux pour faire la justice ailleurs sans toutes les procédures que sont la présomption d'innocence, le souci du contradictoire, la prescription, etc. Ou est-ce qu'on essaie de réformer ce système judiciaire ?
Alors, moi, je crois que on va bien sûr parler de la justice parce que c'est omniprésent dans le débat, mais vous le disiez, Ingrid Tervat, on a beaucoup entendu les femmes grâce à ce mouvement quand même quasi mondial. Ça a révélé aussi d'ailleurs des personnalités très critiques comme la vôtre, Jenny Bastier, sur ces mouvements féministes. Peut-être que vous n'auriez pas eu la parole à votre très jeune âge, d'ailleurs, si bien sûr, parce que vous avez publié des livres, mais pas seulement, parce qu'aussi, il y avait une parole qui était demandée du côté des femmes. Je voudrais qu'on fasse un parallèle avec un autre phénomène planétaire, c'est la sortie du livre de Michelle Obama, ex-première dame. Elle démarre sa promotion de livre aujourd'hui, Devenir, la traduction en français, édité à 3 millions d'exemplaires aux États-Unis. Paru dans le monde entier simultanément. Elle fait sa première conférence devant 20 000 personnes aujourd'hui à Chicago. Eugénie Bastier, forcément, vous parlez beaucoup des États-Unis dans votre livre, et pour cause, puisque le phénomène MeToo est parti des États-Unis. Comment vous analysez son aura, vous qui êtes si critique sur le mouvement MeToo ?
Je crois que Michelle Obama a un véritable charisme au-delà d'ailleurs du phénomène MeToo. Je pense que son livre aurait eu du succès même s'il n'y avait pas eu MeToo, qu'on ne peut pas tout mélanger. Après, je pense qu'elle a aussi beaucoup de succès parce qu'elle incarne un peu l'anti-Trump. C'est une femme noire, là où Trump est un homme blanc. Et évidemment, ils ont des convictions opposées. Donc il y a aussi, je pense, un parallélisme qui fait qu'elle a beaucoup d'aura, surtout dans un contexte où Trump exaspère beaucoup de gens et est très critiqué. Mais moi, je suis assez intéressée par... par ces femmes qui publient des livres. On a eu le livre de Ségolène Royal récemment, qui a publié ses mémoires politiques, et qui insiste beaucoup sur le fait qu'elles sont des femmes. Et moi, je trouve ça un peu dommage, parce qu'on est passé d'un discours, les femmes politiques, essayer d'incarner, finalement, de montrer qu'elles étaient capables aussi bien que des hommes d'être des personnalités politiques. Et aujourd'hui, je suis un peu gênée par ce discours des femmes politiques qui insiste sur le fait qu'elles sont des femmes et qu'elles ont été victimes. C'était pas du tout, je trouve, la tonalité, par exemple, de Ségolène Royal en 2007, lorsqu'elle a fait sa campagne, où elle était très... elle disait qu'elle était une femme, elle assumait sa féminité, mais elle n'était pas sur une tonalité victimaire. Là, elle revient sur une tonalité victimaire. J'ai pas lu le livre de Michelle Obama, mais je ne sais pas si elle dit...
Elle se pose pas en victime.
Elle dénonce le sexisme en politique, mais je trouve
elle
que...
Elle se pose plutôt en une figure de celle qui franchit les obstacles.
Mais c'est pas tout à fait la même chose. Justement, ça c'est une bonne incarnation, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on nous présente beaucoup de femmes victimes, et je trouve qu'on a besoin aussi de modèles féminins qui réussissent et qui sont heureuses et fières d'être des femmes sans se poser se camper en victime. Et si Michelle Obama le fait dans son livre, j'en suis ravie.
Elle se pose pas toute en victime du tout, elle se pose aussi comme survivante. On a des exemples majeurs et extraordinaires en France. On a Simone Veil, que l'on cite et que l'on aime citer parce que c'est quand même un modèle assez extraordinaire.
Ouais, mais beaucoup de femmes est forcément une ex-victime.
C'est une question de point de vue, c'est une question de positionnement personnel. Par ailleurs, il y a énormément de femmes qui ont gagné des élections locales aux midterms aux États-Unis, pour revenir aux États-Unis puisqu'on parlait de Michelle Obama, et qui ont des parcours incroyables, qui se positionnent pas comme victimes, mais qui se positionnent au contraire à partir de ce qu'elles ont vécu, à partir des discriminations dont elles ont fait l'objet, comme résistantes. Donc c'est une expérience victimaire peut-être, mais qui en tout cas nourrit une action politique positive, et ça on ne peut franchement que s'en réjouir.
Vous restez avec nous. Alors qu'est-ce qui change vraiment aujourd'hui entre les hommes et les femmes? Le mouvement de libération de la parole des femmes issu du hashtag MeToo fait-il des hommes finalement des coupables potentiels malgré eux? Puisque c'est un peu ce que vous dénoncez dans le port émissaire Eugénie Bastier. On va en parler. Bien sûr, vous pouvez nous téléphoner sur le numéro gratuit WhatsApp 33 1 84 22 71 71.
Fatoumata Diawara, Nterini, chez 7 milliards de voisins, vous êtes en direct sur RFI. Qu'est-ce qui a changé entre les hommes et les femmes depuis ce mouvement MeToo? Une voisine nous poste un message WhatsApp sur notre répondeur 33 1 84 22 71 71. Kadia Tou est à Conakry, elle a 17 ans.
Bonjour, je suis Kadia Tou de Conakry. Parlons un peu du mouvement MeToo. Il faudrait savoir que ça a changé la perception des choses. Parce que si avant les hommes se permettaient de faire tout ce qu'ils voulaient, ce n'est pas le cas maintenant. Parce que les femmes ont osé dénoncer, elles osent maintenant montrer ce qu'il faut changer, elles osent faire exactement ce qu'il faut pour changer les choses. Avec ce mouvement MeToo, non seulement il y a des hashtags
qui ont été créées de par-ci par-là, mais aussi d'autres astuces, d'autres actions de sensibilisation pour dire aux femmes qu'elles peuvent maintenant dénoncer des phénomènes liés au problème de harcèlement sexuel dans le pays.
Françoise Brié, qu'est-ce qui a réellement changé depuis MeToo, si on prend déjà un pays comme la France hein?
Alors, déjà, sur le fait que les femmes vont tenter de sortir de la violence, ou plutôt nous gérons la ligne d'écoute nationale le 39-19, et on a observé au dernier trimestre 2017, après justement toutes ces affaires, une augmentation du nombre d'appels de plus 52% sur les violences sexuelles. Mais, ce constat s'est poursuivi en 2018, puisqu'au premier trimestre 2018, on a aussi des augmentations très importantes de 15% d'appels entrants. Ce qui fait qu'on s'aperçoit que les femmes désormais essaient de se saisir des opportunités qui leur sont faites de s'exprimer, ou plutôt elles n'ont pas envie de rester victimes, elles n'ont pas envie de rester dans ce statut de victime. Et le rôle des associations d'ailleurs comme les nôtres, c'est justement de passer à la seconde étape de reconstruction, et ça leur donne une force, et ça leur donne aussi le courage d'aller dans leur démarche juridique, hein. Vous avez parlé de la justice tout à l'heure, il en faut effectivement du courage.
Rappelons-le, les démarches juridiques, c'est-à-dire les plaintes en justice sont extrêmement faibles concernant les agressions sexuelles et les viols.
On a une baisse de 40% effectivement des condamnations sur
oui, là, je parlais déjà du processus de plainte, d'aller porter plainte.
Hein. Tout à fait.
Et ensuite, alors sur les condamnations, il faudrait reprendre les chiffres peut-être avec un peu plus de recul, parce que ça dépend aussi de l'engorgement des tribunaux, oui, ça dépend aussi de la requalification du pénal au correctionnel, enfin.
Mais ça interroge quand même, et même les magistrats, moi j'étais à une réunion l'autre jour avec des magistrats et des magistrates, s'interrogent quand même sur cette non-reconnaissance par la justice de ces situations de violence sexuelle. Alors effectivement, on peut parler des moyens de la justice, mais je pense quand même qu'on a là une vraie difficulté aussi de reconnaissance des violences, mais qui a traversé toute la société. Et si MeToo a permis justement aux femmes de s'exprimer, c'est parce que ce ras-le-bol s'explique aussi par la non-reconnaissance de la justice, bien entendu, mais aussi par un ras-le-bol général du contexte qui
entoure toutes ces femmes. De la difficulté aussi pour la justice, quand même, aussi quand il y a plainte, de reconnaître la culpabilité. C'est parce que c'est compliqué, ce ne sont, sont pas des procès simples.
Non, bien sûr, ce ne sont pas des procès simples, mais la parole de ces femmes et les témoignages qu'elles peuvent apporter et leurs dossiers ne sont pas toujours non plus pris en compte. Les représentations sexistes, elles traversent toutes les institutions, elles traversent la société en général, et y compris l'institution judiciaire.
La majorité des magistrats sont quand même des femmes, donc à moins que les femmes soient elles-mêmes sexistes, ça me paraît quand même compliqué d'attribuer cela au sexisme des magistrats. Mais je pense que oui, en effet, c'est difficile à prouver, un viol notamment. Et le problème, c'est comment fait-on pour améliorer cette justice sans y renoncer? Et ça, c'est très important, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même... J'entendais une féministe récemment à la radio dire qu'en France, on en faisait trop avec la présomption d'innocence, et prendre comme modèle les États-Unis, en disant que finalement, si MeToo avait échoué en France, parce que pour elle, il avait échoué, c'est parce qu'en France, on était trop attaché à cette présomption d'innocence, qu'on était trop procédurier, etc. Moi, je crois que justement, c'est l'honneur de la France, par exemple, que nos ministres qui ont été mis en cause dans des affaires d'accusations de harcèlement et d'agression sexuelle, dont l'un était prescrit et l'autre apparemment était un peu sans preuve, n'ont pas démissionné, je parle de Darmanin et de Hulot, alors que dans un pays anglo-saxon, à mon avis, ils auraient dû démissionner. Et je pense que c'est bien qu'en France, on résiste à cette vague qui exige des têtes sans procès, sans procédure judiciaire, parce que le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. Et je pense que c'est aujourd'hui un gros problème dans nos démocraties, que le temps médiatique ait remplacé le temps judiciaire.
Ouais, le temps judiciaire, en l'occurrence en France, il est extrêmement lent. Il faut quand même le préciser. Pour vous, Ingrid Tervat, qu'est-ce que MeToo a changé, d'ailleurs, pas seulement à l'échelle de la France, hein.
Ouais. Alors, moi, j'ai lu votre livre, Eugénie Bastier, avec beaucoup d'attention, et je l'ai lu de bout en bout, et moi il y a trois choses qui m'ont vraiment frappée dans votre livre et qui pour moi sont des contresens. Alors on sera pas d'accord, mais c'est pas du tout grave. Il y a un contresens factuel, vous dites, page 13, le féminisme est en panne de bourreau, mais ça me semble absurde puisqu'il n'est pas en panne de victime. 70% des femmes dans leur vie, d'après l'OMS, sont victimes de violences. Ça fait plus de dégâts que la guerre, le palu. Donc on est vraiment dans un contresens. Vous dites beaucoup plus loin à la fin du livre, page 147, que le patriarcat, je vous cite pas exactement, mais que le patriarcat n'existe plus
en Occident.
Par ailleurs, vous faites comme si, j'ai eu l'impression, peut-être vous me détromperez, mais que finalement le débat autour de MeToo, c'était une question d'amour entre hommes et femmes et que de façon de concevoir les rapports amoureux qui devenaient, selon vous, très problématiques. Selon moi, MeToo révèle surtout des violences systémiques, et il est question pas d'amour, mais de domination et de patriarcat. Et pour en revenir à l'international, il y a aussi une chose qui m'a frappée dans votre livre. Vous parlez beaucoup des États-Unis, ce qui est logique, hein, puisque le hashtag a commencé aux États-Unis, vous parlez beaucoup de la France, puisque vous écrivez de la France, c'est tout à fait normal, mais vous dites aussi à plusieurs reprises, page 60, 73, 75, etc., etc., qu'il y a une forme d'autoflagellation occidentale là-dedans. Ben, je suis, moi, pas du tout d'accord. Alors, travaillant à Courrier International et observant ces mouvements depuis bien longtemps, moi, je constate qu'il y a des mouvements similaires, avec des hashtags très similaires, dans des langues locales d'ailleurs, hein, qui ont précédé le mouvement MeToo aux États-Unis, en Argentine, au Brésil, au Gabon, depuis MeToo. Donc il y a eu une grande vague, un grand mouvement qui a essaimé en Inde, en Éthiopie, en Tunisie, au Rwanda, au Liban, en Chine, en Corée du Sud. Et ce qui est important justement, c'est qu'il ne s'agit pas d'une opposition entre les anglo-saxons puritains et les Français plus grivois ou je ne sais quoi. Il s'agit vraiment d'un mouvement de masse qui montre qu'il y a des dominations masculines, patriarcales, similaires, même si elles s'expriment de façon différente, mais structurellement similaires partout dans le monde. Et ce qui est très fort, notamment dans le cas de l'Inde, que moi je connais très bien à titre personnel et professionnel, c'est que les femmes indiennes se sont emparées du hashtag MeToo il y a à peu près un mois et quelques jours, au moment où le professeur Ford était auditionné face à Kavanaugh qui allait rentrer à la Cour suprême
aux
États-Unis. Et il y a vraiment un dialogue et c'est vraiment un mouvement transnational. C'est-à-dire que les Indiennes regardent ce qui se passe aux États-Unis, les Françaises regardent ce qui se passe au Gabon, les Gabonaises regardent ce qui se passe au Rwanda, etc. etc. Et ces paroles s'enrichissent et se renforcent. Et qu'on est au-delà de la délation, on est au-delà des cas individuels qui peuvent poser problème, qui doivent se régler devant les tribunaux. On est vraiment devant une prise de conscience de masse, sociale, sociétale, de quelque chose qui est une discrimination et une violence qui fait système.
Eugénie Moi, Bastier, vous dites dans votre livre que, enfin, vous qualifiez MeToo de révolte des élites, puisque vous dites les femmes qui ont pris la parole à l'occasion de MeToo l'avaient déjà, des femmes politiques, des journalistes, des actrices.
Oui, je pense qu'au départ, en tout cas, c'est un phénomène élitiste qui vient des élites hollywoodiennes, de femmes qui ont en effet déjà la parole, qui n'ont qu'à téléphoner pour être à un journaliste pour être en une des journaux. Mais je voudrais revenir quand même sur ce que vient de dire Madame, sur quand je parle de patriarcat et je dis qu'en effet, en Occident, le patriarcat a disparu. Je pense que c'est une réalité. D'ailleurs, le mot patriarcat lui-même sera un mot à déconstruire parce que c'est une espèce d'étiquette sur laquelle on rassemble des régimes très divers, un peu comme l'ancien régime. Quand on parle de ce qui s'est passé avant la Révolution française.
Et vous le regrettez ou pas ?
Et je pense que qu'est-ce que le patriarcat ? Si c'est l'inscription, pour moi, un système patriarcal, c'est un système où il y a une inscription dans les institutions de la domination masculine. Et notamment, c'était le cas par exemple en France avec le Code civil napoléonien qui en effet inscrivait dans la loi l'infériorité des femmes et leur absence de liberté. Ou alors dans le fait que jusque dans les années 60-70, les femmes ne pouvaient pas avoir un chéquier ou ne pouvait pas, en effet, avoir une autonomie financière. Je crois que ce système-là...
Vous ne regrettez pas cette époque-là ?
Bien sûr que non. Mais je pense qu'aujourd'hui...
Vous allez nous rassurer quand même.
Non, je ne regrette pas du tout. Mais je pense qu'en fait, qu'on ne peut pas opposer le vieux monde de la domination masculine au nouveau monde qui serait celui de la liberté des femmes, parce que je pense que le progrès lui-même sécrète de nouvelles formes d'aliénation pour les femmes. On pourra en parler, mais je pense que, par exemple, Weinstein n'est pas un produit de l'ancien monde, c'est un produit de la modernité, de Hollywood.
On pourrait le dire pour tous les progrès, c'est voilà, une forme d'aliénation.
Moi, je suis contre cette lecture linéaire de l'histoire en disant que les femmes étaient dominées, esclaves jusque dans les années 60. Elles sont passées de l'ombre à la lumière grâce à la pilule et à l'avortement.
Mais qui a dit
je crois que c'est plus compliqué que ça. C'est un peu le récit eschatologique féministe lambda. Pour revenir à ça, je pense que le fondement de la domination masculine, c'est l'appropriation par les hommes de la fécondité des femmes et que cette appropriation-là n'est plus possible depuis, en effet, que les femmes ont pris contrôle de leur propre corps grâce notamment à la pilule et à l'avortement, et qu'aujourd'hui, le fondement de cette domination masculine n'a plus lieu d'être. Évidemment qu'il reste des poches d'inégalité, et MeToo est une façon de faire éclater une de ces poches, mais la grande tendance de fond est quand même à une égalité systémique. Le système est pour l'égalité, il n'est pas pour la domination.
finalement, MeToo, ça serait la bête monstrueuse et les petites poches d'inégalité qui se réveilleraient avant de
je pense que
définitivement abattue.
MeToo n'est pas une révolution, c'est une réplique de la grande révolution sexuelle qui a eu lieu il y a 40 ans.
Les plus grandes inégalités entre les femmes et les hommes, ce sont bien les violences. Et là, on est dans l'appropriation du corps. Vous parliez tout à l'heure de cette appropriation. Elle existe toujours, en particulier en matière de violences sexuelles. Et quand on voit qu'une femme est tuée tous les 3 jours en France, quand on voit le nombre de femmes victimes de viol ou de harcèlement sexuel au travail, il y a quand même ce système qui est toujours en place, avec des grandes inégalités.
Malheureusement, ce système...
Qui sont toujours en place.
Aux différences biologiques. C'est-à-dire, vous savez très bien que, malheureusement...
Non, il est dû à l'éducation.
Les femmes, ne violent pas les hommes.
Et vous pensez qu'il n'y a pas d'hommes sexistes.
Mais il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes.
Mais il y a des hommes
violés par des hommes. Il y a des hommes violés par des hommes. Il n'y a pas d'hommes violés par des femmes.
Je voulais juste revenir sur une chose que vous disiez sur le patriarcat. Le patriarcat, ce n'est pas juste interdire aux femmes d'avoir un chéquier ou de voter. Le patriarcat, c'est aussi quand il y a 25% d'inégalité salariale dans les entreprises. Le patriarcat, ça existe toujours. Et c'est toujours quelque chose qui... Ça n'existe plus.
Non.
Mais vous vivez dans une poche qui a l'air très agréable, mais la plupart des femmes en France.
Mais alors, dans ces cas-là,
c'est plus qu'effectivement, il y a des inégalités entre femmes.
Il y a des inégalités, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un patriarcat. Les inégalités salariales, parlons-en par exemple, elles sont dues essentiellement. Les inégalités salariales résiduelles ne sont pas dues à un système. Ce n'est pas les hommes qui disent quand on embauche des femmes, tiens, on va les payer moins. C'est faux.
Ah
c'est
bon
dû. Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. C'est dû au fait que, par exemple, les femmes. C'est dû à la maternité. Et les femmes s'arrêtent dans leur carrière pour avoir des enfants. La question, c'est. Est-ce qu'on accompagne mieux une conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour qu'on puisse résorber au maximum ces inégalités, ou alors on supprime la maternité?
C'est essentiellement les inégalités salariales, c'est essentiellement le travail à temps partiel.
Exactement, hein, mais qui est choisi pendant 65% des femmes.
Qui est choisi, oui, ouais. C'est compliqué
c'est aussi
ce choix-là.
C'est l'intériorisation aussi des schémas dites féminines dès l'enfance, à travers l'éducation,
non, ça, je crois pas.
À travers la religion, alors, à travers voilà, oui, tout ce système qui se construit.
C'est sur la question, est-ce qu'aujourd'hui il faudrait revoir la façon dont on éduque les petits garçons pour que soit intériorisé le respect mutuel entre les hommes et les femmes. Vous dites oui.
Oui, tout à fait. C'est vrai que dans les associations, en tous les cas, de solidarité femmes, on est aussi très actifs sur la question des actions de prévention des violences sexistes auprès des jeunes. Et c'est important, effectivement, d'apprendre le respect mutuel et de pouvoir déconstruire aussi les stéréotypes qui sont inculqués dès l'enfance. Il suffit de regarder les émissions, les
publicités.
Ça,
c'est une question centrale aussi pour vous,
oui, bien sûr.
Sur l'éducation des garçons.
Je suis ravie que vous me posiez cette question, parce que je pense qu'elle est... Elle est cruciale. On parle beaucoup d'éducation des petites filles, ce qui est très bien. On parle beaucoup moins d'éducation des petits garçons, et c'est dommage parce que c'est vraiment aussi très très important. Le sexisme, ça prend en famille, mais ça prend aussi beaucoup à l'école. Les espaces comme les cours de récréation sont très genrés, avec les garçons qui occupent le milieu et la plupart des espaces parce qu'il faut jouer au foot, notamment, et qu'ils empêchent les filles de jouer au foot, ce qui est absurde, et les filles qui sont reléguées autour. Et ça, il y a beaucoup d'injonctions à une virilité assez perverse qui est apprise dès l'enfance. Et il faut effectivement apprendre aux petits garçons qu'ils ont le droit aussi d'être bienveillants, d'être sensibles et d'avoir les qualités qu'on attribuait complètement de façon arbitraire aux femmes avant. C'est très très important, c'est très important en France, mais très important en Inde. Les féministes indiennes aussi se battent beaucoup là-dessus. Il y a pas mal de maisons d'édition qui travaillent sur des livres aussi pour expliquer aux petits garçons, comme aux petites filles, comment se comporter de façon... pour aller au-delà des stéréotypes de genre.
Pour vous, Eugénie Bastier.
Alors moi, je pense que l'éducation est importante,
nature,
mais je pense...
Pour l'éducation des garçons.
Oui, mais je pense que ça passe pas du tout par la déconstruction des stéréotypes, mais par une éducation au respect dans la différence des sexes, d'ailleurs.
Au respect
au sens
général du genre humain, c'est ce que vous voulez dire.
Moi, en fait, je suis pas d'accord avec les... Enfin, c'est le grand débat nature-culture. Les féministes pensent qu'il y aurait une espèce de nature égalitaire et que la société éduquerait les petits garçons à devenir méchants avec les filles. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est quand il y a une absence d'éducation que les pulsions les plus dominatrices ressurgissent. Et je pense que on n'éduque pas aujourd'hui les petits garçons à être violents avec les petites filles ou dominateurs, mais c'est justement quand on les éduque pas qu'ils deviennent comme ça. Et notamment avec ce ressurgissement d'instincts plutôt barbares, et qui sont excités, à mon avis, par un problème dont on parle peu, qui est la pornographie ou même les jeux vidéo, qui, à mon avis, excite beaucoup des instincts virilistes, cette volonté de se battre, cette volonté de considérer le corps des femmes comme des objets. Et pour moi, c'est rien de culturel. C'est au contraire, dans des dans des le problème c'est une absence d'éducation quand on laisse son enfant avoir accès à ce genre de contenu.
Et les féministes ne nient pas non, mais le pense, problème
oui,
de la pornographie.
Je pense qu'elles ne le nient pas, mais aujourd'hui que, ça mais fait consensus en haut de l'agenda et que plutôt que pour le dire simplement, plutôt que de traquer les stéréotypes de genre dans La Belle au Bois Dormant, on ferait mieux de s'attaquer à la pornographie qui est quand même une éducation qui est aujourd'hui principalement
l'un n'empêche pas l'autre.
Oui, mais beaucoup, c'est vrai que la pornographie, oui, on en parle curieusement pas tellement à l'agenda politique de la part de mouvements qui veulent une égalité entre les sexes.
Enfin, je pense que dans les revendications que nous avons apportées, en particulier sur les derniers projets de loi, bien sûr qu'on a parlé de la pornographie.
Pourquoi il n'y a pas une grande campagne.
Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de débats sur cette question-là, hein, contre la pornographie. Maintenant, cette pornographie, elle débute pas comme ça, tout d'un coup. Elle vient bien d'un système aussi qui est installé depuis l'enfance et qui...
Elle vient du marché. Elle vient des lois du marché, bien sûr. Elle vient pas de la domination masculine. Elle vient des lois du marché de l'Internet, non, quand même.
Elle vient du marché, bien sûr, mais elle s'inscrit aussi dans un processus. On n'est pas... voilà, on n'a pas tout d'un coup la pornographie.
Enfin, bien sûr qu'on a un marché. Le corps des femmes n'a été autant objectivé aujourd'hui qu'en Occident, 40 ans après la révolution sexuelle. Il y a peut-être un problème. Ça veut dire que ça ne marche peut-être pas de déconstruire systématiquement les stéréotypes dans la culture et de laisser le marché naître, que le marché être la seule, le seul vecteur de cette représentation sexuée. Par exemple, les jouets pour enfants n'ont jamais été autant différenciés entre les petits garçons et les petites filles. C'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles, on se passait les jouets entre petites filles et petits garçons. Aujourd'hui, il y a les jouets roses et les jouets bleus parce que c'est le marché qui segmente pour vendre deux fois
plus. Et vous êtes d'accord pour
dire c'est improbable. Mais moi, je suis contre, absolument. J'ai jamais eu de... Moi, quand j'avais 5 ans, j'ai demandé un costume de prince à mes parents. Ils me l'ont offert. C'est des tradis catholiques qui ont manifesté contre la théorie du genre. Donc, vous voyez, comme quoi, c'est pas forcément lié. Et on m'a jamais donné des jouets stéréotypés, etc. Mais je pense que le problème, c'est que quand on déconstruit la différence des sexes dans l'ordre culturel, elle ressurgit de manière caricaturale et outrancière dans le marché dans une culture marchandisée.
Pourquoi c'est antinomique ? Enfin, je veux dire, évidemment, il y a ces deux systèmes et on ne peut pas juste opposer l'un à l'autre.
Oui, je dis juste que 40 ans après la révolution sexuelle et à l'égalité homme-femme, on n'a jamais eu autant de, par exemple, dans l'enfance, de mondes aussi séparés. C'est-à-dire que les petits garçons ont leur Spider-Man, etc., les petites filles ont leur princesse, ça n'a jamais été autant éloigné. Il faut se poser une question.
Alors, l'avantage de MeToo, c'est qu'en tout cas, le débat a changé pour la droite traditionnelle. Avant, c'était mai 68, le responsable absolument de tous les maux de la société. Aujourd'hui, c'est MeToo. Il y a un nouveau coupable, quand même.
Donc, ça... Moi, je ne dis pas que c'est MeToo. Alors là, je ne dis absolument pas que MeToo est responsable de tous les maux de la société. Au contraire, je pense que c'est plutôt un symptôme qu'une cause réelle.
Alors, il faut qu'on parle du consentement, parce que vous le dites. Très justement, Jenny Bastille, consentement, et ça tout le monde est d'accord, est au cœur du débat sur MeToo. Et le mérite de MeToo, c'est vrai que le sujet du consentement, c'est un sujet dont on parlait quasiment jamais il y a moins de 10 ans, non, Ingrid Tervat?
Oui, c'est vrai. Et je trouve qu'un des mérites de ces dernières années, c'est justement de parler du consentement. On en parle parce que c'est une question devant les tribunaux, on en parle parce que c'est une conversation qu'on a de façon plus générale dans les rapports hommes-femmes, mais pas que hommes-femmes d'ailleurs. Il y a juste une chose qui m'amuse, moi, j'ai vu passer ça sur Internet, c'est que les hommes hétérosexuels semblent avoir beaucoup de mal à comprendre le consentement. On parle de zones grises, etc. Ça a l'air d'être d'une complication intellectuelle extrême. On parle de le consentement, ça va judiciariser, il va falloir faire des contrats et on casse l'érotisme et la subtilité de la séduction. En fait, les hommes...
Ça apparaît quand même aussi dans des témoignages de femmes.
Tout à fait,
quand même,
mais il y a une chose qui est quand même frappante, c'est que les hommes hétérosexuels n'ont aucun problème à comprendre ce que c'est que le consentement dès qu'il rentre dans un barguet. Hein ? Là, tout de suite, ils ont compris ce que c'était que le consentement. Donc je vois pas pourquoi...
Tu veux, oui, non.
Voilà, c'est tout de suite, ça leur paraît simple. Par contre, quand il s'agit de rapports avec des femmes, tout de suite, ils parlent de zones grises et de séduction et d'ambiguïté, alors que ça n'a rien à voir avec l'amour, ça n'a rien à voir avec la séduction. C'est une question juste de respect. Et ça, ils le comprennent quand eux-mêmes sont dans une position qu'ils jugent minoritaire. Voilà, ça, c'est juste une chose que je voulais dire, parce que je trouve ça vraiment frappant. Après, qu'on parle du consentement, moi je trouve ça très bien, je trouve que ça, on devrait... en parler dès l'enfance, ça devrait faire partie de l'éducation. Vous parliez, Eugénie Bastier, de respect qui doit être inculqué aux enfants, aux petits garçons comme aux petites filles. Je pense que parler du consentement aux enfants, c'est très important, ça fait partie de ce respect. Et ce n'est pas très compliqué à comprendre en réalité, ni à mettre en œuvre, et on n'a pas besoin d'aller chercher aux États-Unis des exemples extrêmes d'applications qui font des contrats avant les rapports sexuels.
Oui,
Pardon. Vous n'êtes pas pour ces contrats, donc.
Je trouve ça assez ridicule, hein, comme tout le monde. Je pense que c'est typiquement le genre d'exemple qu'on brandit parce que c'est complètement ridicule. Mais et je pense qu'on
donc,
est
donc tout, vous n'êtes pas pour assez une intelligent forme de contractualisation des relations amoureuses, des relations
de contractualiser les relations humaines. Non, pas non. Je pense que personne de normalement constitué est pour contractualiser les relations humaines. Par contre, avoir du respect. Avoir du respect entre les gens et du consentement sans passer par une appli et signer un papier, moi je pense que c'est pas si compliqué que ça et j'aimerais bien qu'on cesse avec ces zones grises et...
Oui mais enfin ces zones grises, Françoise Brié dans les débats américains et puis c'est arrivé aussi en France, le fait de regretter un rapport sexuel, une relation sexuelle avec un homme, ça ne doit pas revenir à dire bah non en fait je n'étais pas consentante, d'où la nécessité du coup de la contractualisation. Ça a été un peu ça quand même les zones grises, des femmes qui n'étaient pas forcément toujours au clair avec elle-même.
Je pense que
c'est aussi la complexité du genre humain.
Oui, je pense que non, on est dans un système aussi parfois où des femmes sont sidérées par des violences, voilà, qui s'installent progressivement jusqu'à.
Ça c'est autre chose. Des femmes sidérées pendant des viols sont des phénomènes normaux décrits et compris aujourd'hui quand même.
Oui, mais je pense que ça, c'est aussi tout cet environnement qui peut être aussi problématique. Et je pense que sur la question du consentement, il y a une petite vidéo qui est très bien faite et qui explique très bien ce consentement qui s'appelle la tasse de thé cup of tea, qui montre aussi et qui est tout à fait compréhensible par tout le monde pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la notion de consentement. Et on ne va pas effectivement contractualiser les relations humaines et les relations amoureuses. En tous les cas, je pense qu'on devrait plutôt inverser dans ces affaires. C'est-à-dire que c'est plutôt aux agresseurs de démontrer voilà, que la victime...
Non, mais ça, c'est
je pense qu'il faut absolument...
L'inversion de la charge de la preuve, c'est quand même grave. C'est remettre en question tout notre système de droit.
Je pense qu'il faut réfléchir.
C'est à l'agresseur de prouver son innocence, on renverse le système de juridique quand même.
Je pense
que c'est compliqué, le consentement. Moi, je suis tout à fait favorable au fait que, en effet, aujourd'hui, on a du mal à dire oui ou non. Et je pense que c'est important d'apprendre aux femmes aussi à dire non, c'est-à-dire que de leur dire qu'elles peuvent dire non, qu'elles ont droit de dire non.
Vous vous dites quand même dans votre livre, Eugénie Bastier, c'est que la virginité n'a plus de sens aujourd'hui dans nos sociétés. Si elle reprenait un peu du poil de la bête, serait finalement plus ça.
Non, vraiment pas. Alors là, vous m'avez mal lu parce que je sais que vous avez bien envie de me caricaturer en
ultra-conservatrice,
mais c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste qu'on est passé d'une injonction de la chasteté qui était l'injonction des sociétés traditionnelles à une autre injonction aujourd'hui qui est une injonction la jouissance et qui est une injonction inverse, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est plus on n'a plus le devoir d'être chaste, mais l'injonction au contraire de pour les jeunes filles de coucher avec des hommes et vont forcer parfois il y avait des témoignages, moi c'est ça qui m'a frappé dans MeToo, c'est toutes les témoignages de jeunes filles qui disent voilà j'ai couché avec un homme, j'ai eu une relation sexuelle avec un homme alors que je n'en avais pas envie parce que je me suis sentie obligée, et ça je pense que c'est important et c'est bien que MeToo l'ait révélé parce que c'est vrai qu'il y a une injonction à la jouissance et je dis pas du tout qu'il faut le remplacer
qui va avec l'injonction aussi à une forme d'exhibitionnisme aujourd'hui
à la vision, je pense, et ça c'est un angle mort de MeToo, mais à la vision ultra consumériste de la sexualité qui en fait qui le sort de tout relationnel et qui en fait une espèce d'objet consumériste ou avec la multiplication des partenaires qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent parfois obligées, qui regrettent ensuite, et je pense que on peut pas réduire le débat à il faut que les hommes entendent mieux ce qu'ont à dire les femmes, il faut aussi que les femmes arrivent à formuler leur désir et à formuler aussi leur non-désir et qu'elles aient le droit aussi de dire non.
Parce que pour vous il y a quand même trop de paradoxes, c'est-à-dire laissez-moi le droit de séduire, laissez-moi le droit d'être exhibé sur les réseaux sociaux puisque ce sont les lois de l'internet, laissez-moi aussi le droit de dire non à la dernière minute.
C'est un peu ça le
serpent qui se mord la queue.
Notre époque, comme disait Philippe Murray, c'est que c'est un système exhibo-pénaliste, c'est-à-dire qui veut à la fois la jouissance et la punition, qui veut à la fois, on est dans une société en effet qui est quand même très qui met en avant beaucoup le corps, qui est dans le culte du désir, qui présente une vision de la sexualité extrêmement consumériste, un peu comme dans un supermarché où on choisirait sur les réseaux sociaux grâce son compagnon d'un soir ou sa compagne d'un soir, etc. Et je pense que tout cela...
Tinder, donc.
Tinder, par exemple, je dis de la carte du temps.
Mais Tinder, c'est pas les féministes, Tinder.
Non, bien sûr que non. Je dis pas que c'est les féministes, mais je dis qu'on est dans un monde assez paradoxal qui, à la fois, crée une espèce de... une hypersexualisation et en même temps qu'il y a son revers puritain et qui veut contrôler le désir,
etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Ingrid Tarvat?
Moi, j'en ai un peu marre qu'on culpabilise les femmes, en fait. Je trouve que c'est... ou qu'on inverse...
il faut absolument pas les infantiliser,
mais en tout cas, moi, c'est un paradoxe.
Mais en tout cas, moi, il y a une phrase qui m'a frappée dans votre livre. Je vous cite, j'aime bien vous citer parce que comme ça, vous n'allez pas dire que vous caricature, puisque c'est vos mots exactement. Vous dites, page 26, qu'il faut apprécier de façon esthétique les tragédies intimes. Alors, c'est joliment dit, mais quand même, ce qui est frappant sur MeToo, c'est qu'il ne s'agit pas que de tragédies intimes, il ne s'agit pas de jeunes filles qui regrettent d'avoir couché un soir avec quelqu'un. La grande majorité des témoignages, c'est des témoignages de femmes qui ont été violées ou harcelées par des hommes en position de pouvoir, en général leur supérieur hiérarchique. Il y a vraiment quelque chose de politique là-dedans. Il ne s'agit pas juste d'une injonction à la jouissance, au désir, à des femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent.
Il y avait des témoignages de jeunes filles. Par exemple, le documentaire de Blandine Grosjean sur la zone grise, c'était beaucoup de témoignages de jeunes filles, 16, 17 ans. Il y avait aussi, en effet, des femmes prises dans des rapports de pouvoir. C'est pour ça que MeToo était un phénomène protéiforme.
Moi, je vous parle des cas, notamment, qui ont vraiment donné lieu à des procès ou qui sont en train de donner lieu à des procès et qui sont systématiquement, quasi systématiquement, des procès de femmes qu'elle intentait à leur supérieur hiérarchique. Je vois en Inde notamment, il s'agit du milieu de la presse et les rédacteurs en chef des grands journaux qui ont pendant des années violé et harcelé des centaines de subalternes. Donc il ne s'agit pas de questions de Tinder, de jouissance, de savoir dire non, etc. Il y a vraiment l'enjeu, c'est celui du pouvoir, pas celui de la séduction.
Oui, mais là où il y a du pouvoir, il y a forcément souvent du harcèlement et des abus. Vous êtes d'accord avec moi, c'est un phénomène universel, malheureusement. Là où il y a du pouvoir, il y a une tentative. Celui qui a du pouvoir a toujours il faut le punir, il faut l'encadrer, mais la tentation d'utiliser ce pouvoir pour monnayer un service, et quand ce sont des hommes, souvent, c'est un service sexuel. Même si des femmes aussi peuvent être abusées de leur pouvoir, on a vu le cas d'Avita Ronell aux États-Unis,
Et pour la première fois, on en parle sur le plan mondial, et on ne peut que s'en féliciter, vous ne trouvez pas?
Alors,
je dis aussi qu'il peut y avoir des abus.
Les femmes qui nous appellent, enfin, que l'on voit tous les jours dans nos associations, ne sont pas. Elles ne se posent pas ces questions que vous amenez. Elles sont vraiment des femmes victimes avec des violences extrêmes. Et je ne vois pas très bien. Effectivement, il peut y avoir des situations, je dirais, à la marge. Mais en tous les cas, parmi les milliers de femmes qui nous appellent et qui sont dans nos structures, ce sont des femmes victimes de violences et de violences graves et qui sont dans un système de domination et de considération de leur corps comme un objet sexuel, quel que soit le milieu dans lequel elles se trouvent, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit sur leur lieu de travail ou que ce soit dans l'espace public. Donc on est vraiment dans ce que nous on observe. En tous les cas, c'est pas du tout en tous les cas ce que vous décrivez, ou alors on n'est pas dans le même
Si vous vous êtes posé la question à un moment pour vous-même, hein, ce que MeToo avait provoqué et balance ton porc, bien sûr, sur vous-même.
Oui, mais
vous
évidemment,
apportez une réponse
moi,
dans votre livre.
J'essayais de...
Vous avez dit, je me suis surprise à m'épeurer en me retrouvant seule dans une pièce avec un membre de l'autre sexe, à jeter un regard inquiet vers la porte.
Non, mais et c'est vrai, à un moment, j'ai vécu cette scène où j'étais seule avec un homme dans une pièce, et c'était en plein milieu de MeToo, et je me suis dit... à ce qui va m'agresser, et je me suis dit, j'avais tellement intériorisé justement ce nouveau discours, et c'est là où je me suis dit non mais quand même il y a un problème, parce que en effet le slogan de certaines féministes c'est la peur a changé de camp, mais là je me retrouvais moi à avoir peur, je vais pas exagérer non plus, mais à être avoir un sentiment d'inquiétude, de malaise quand je me retrouvais seule avec un homme, et je me disais c'est quand même pas normal d'en arriver là, d'avoir une méfiance systématique et de penser immédiatement quand on est seul avec un homme que celui-ci va vous agresser ou vous violer, ou même quand vous êtes seul dans les transports en commun, etc. Et je trouve que c'est dommage d'en arriver là et d'instaurer ce climat qui est un climat de méfiance et de peur envers l'autre sexe.
Alors, quels sont les défis à relever? On va vous donner la parole, bien sûr, Françoise Brié, pour les femmes, pour les mouvements féministes aussi, aujourd'hui, parce que c'est vrai que MeToo, plus d'un an après... Quelle doit être la suite des mouvements? On en parle, et bien sûr, vous pouvez nous appeler, mais il nous reste vraiment très très peu de temps. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Juste un message posté par Elisabeth qu'on a entendu au début de l'émission, qui postait un message WhatsApp de Lomé au Togo. Elle veut rajouter quelque chose à son message, alors je vais le lire. Je veux rajouter qu'au Togo, un collectif a été créé, Non c'est non, après la publication sur les réseaux sociaux d'un homme obligeant une jeune fille à pratiquer le sexe anal. Voilà, c'était la suite du message d'Elisabeth.
C'est quoi les défis maintenant à relever, selon vous, Françoise Brier, pour les mouvements qui se sont beaucoup investis autour de ce phénomène de société?
Alors d'abord, je voudrais répondre que les féministes appuient sur des constats voilà, et des chiffres qui sont vérifiés, revérifiés, et qu'on n'est pas parano sur ces questions de violence. Je pense que le défi aujourd'hui, ça va être d'organiser aussi ces mouvements sur le plan plus politique à travers nos associations. Et je pense que les associations féministes existent partout à travers le monde et qu'on doit s'unir aussi pour travailler. On travaille déjà dans des réseaux comme le réseau WAVE, comme le réseau euroméditerranéen pour les droits humains, justement pour mettre ensemble nos constats qui sont les mêmes partout, hein, ça a été dit en début d'émission. Et comment on va pouvoir aussi résister à la montée aussi de conservatisme, de fondamentalisme qui arrive, que ce soit par exemple sur la Convention d'Istanbul. On voit des attaques dans l'Est de l'Europe contre cette convention qui est la grande convention de lutte contre les violences faites aux femmes. Et on voit aussi, évidemment...
Vous avez peur de vous laisser enfermer dans le piège occidental, finalement, c'est ça ?
Non, je pense que, justement, il faut penser le féminisme comme un féminisme universaliste, mais aussi lié, je veux dire, à beaucoup d'histoires de féminisme ailleurs dans le monde. On connaît des femmes féministes qui étaient bien avant l'Occident, sur des positions de juge, voilà, dans des positions très importantes. Et je pense qu'il faut qu'on revienne aussi à ces questions d'union entre les féministes à travers le monde, parce que l'idée, effectivement, que le féminisme soit uniquement occidental est une idée extrêmement dangereuse. Et on voit des attaques sur l'Est, effectivement, sur la Convention d'Istanbul ou l'IVG. Mais on a vraiment besoin aussi de cette unité et
Ingrid
de cette réflexion mondiale.
Vous êtes d'accord avec ça, cette nécessité que le mouvement prenne absolument cette tournure universaliste ?
Universaliste, je dirais pas forcément ça, mais je pense qu'il faut reconnaître l'existence de différents mouvements féministes dans beaucoup de pays
du
monde.
Pourquoi vous ne diriez pas universaliste ? Qu'est-ce qui vous dérange avec le mot ?
Ce qui me dérange avec l'universalisme, c'est qu'il est souvent brandi comme une arme un petit peu néocoloniale d'imposition de certaines valeurs occidentales, et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre aussi de pays dits du tiers-monde sur le plan
au siècle des Lumières, on a quand même dénoncé l'esclavage. Hein.
Oui, tout à fait. Moi, je pense au féminisme indien qui a beaucoup de choses à apprendre, par exemple, au mouvement féministe français. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais dire, c'est que les défis...
Sur les apports sud-nord.
Exactement, sur les apports sud-nord, nord-sud, etc. Ce que je voudrais dire, c'est que les défis, c'est le défi de la visibilité, de se présenter aux élections, de se présenter au conseil d'administration, donc toutes ces revendications, se faire entendre et occuper des canaux dont les femmes étaient exclues. Et plus généralement, vraiment sur le fond, arrêter de parler de la guerre des sexes, le combat des femmes contre les hommes, de faire des hommes et des petits garçons des espèces d'animaux en proie à des instincts sexistes et grégaires. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que et de parler de la biologie sans arrêt. Je pense qu'il faut sortir de ça. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de violences qui sont construites, qui sont héritées et une des clés, c'est éduquer les petits garçons et arrêter avec la masculinité toxique.
Eugénie Bastier, un mot de conclusion.
Moi, je trouve justement que la masculinité, il faut arrêter de parler de masculinité toxique, justement, parce que si on déconstruit justement toute forme de virilité dans le domaine culturel, elle ressurgira de manière brutale. Elle ressurgit déjà, je trouve, dans un certain fondamentalisme religieux. Elle ressurgit dans tout ce qui est repris par le marché, etc. Et je pense qu'il faut apprendre à construire une nouvelle culture. On est dans un vide culturel aujourd'hui de relations et de commerce entre les sexes qui ne soit pas sous le mode de la peur ou de la lutte, mais sur une mode de complémentarité. J'ose ce mot, je sais qu'il
Merci à toutes les trois, Eugénie Bastier, Ingrid Tervat, Françoise Brier. Eugénie Bastier, vous avez publié Le Port émissaire, Terreur ou Contre-révolution aux éditions du Cerf. Demain, 7 milliards de voisins, ça sera le rendez-vous des tchatcheuses. Trois femmes journalistes de trois continents commentent l'actualité de leur choix comme chaque mois. À demain, les voisins et les voisines. RFI.